Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito bom, cá estamos nós neste domingo, dia 4 de setembro, c'est la rentrée. Aliás, a rentrée vai ser o principal tema, podemos nós dizer, desta emissão. O principal destaque irá para o Partido Social Democrata. Depois da derrota nas legislativas, o PSD decidiu apostar em força novamente nas comunidades portuguesas. Contamos ter na linha dois antigos secretários de Estado e ex-deputados do PSD, José Cesário e Carlos Gonçalves, que assumem novas funções no seio do PSD. E quando se fala de rentrée, ensino, habitação e por aí afora, iremos até à universidade, concretamente a Paris, Est de Créteil, com professor universitário, e depois falaremos daquilo que se passou nas escolas e está-se a passar, com o secretário-geral da Fédération des Conseils de Parents d'Élèves, e depois habitação, com o presidente da Federação do Val-de-Marne, da Confédération Nationale du Logement. E vamos evocar um desertor da guerra colonial, militante antifascista, militante sindical e associativo, quero-me referir a António Oneto, que faleceu no passado dia 13 de julho, e alguém que desertou três vezes, e foi ele que esteve na origem da Associação dos Imigrantes Ex-Militares, que exigiam a contagem do serviço militar para efeitos de reforma. Vamos ter connosco via telefone o antigo presidente do Conselho Permanente do CCP, José Machado, e ainda João Machado, antigo membro do Conselho das Comunidades Portuguesas e que foi um dos fundadores, precisamente, do movimento dos imigrantes ex-militares. E também a Cândida Rodrigues, da Associação Memória Viva. Mas para já, meus amigos, vamos até a Portugal. José Cesário, muito boa tarde.
Boa tarde.
Muito obrigado por estar connosco em direto. Igualmente, a Carlos Gonçalves.
Muito bom dia, muito bom dia.
Ora, a pergunta que eu faço ao Carlos Gonçalves, estará em Castelo de Vida ou não?
Não, eu estou ao pé de Castelo Branco, Manuel Luís de Castelo Vido, mas estou em Castelo Branco.
Pois, porque há a referir que hoje encerra a Universidade de Verão do PSD com a tradicional rentrée social-democrata. Mas voltemos a algumas semaninhas atrás, o anúncio foi feito por José Cesário, que assumiu a condição de coordenador do Secretariado Nacional do PSD para as Comunidades Portuguesas, funções que desempenhou há cerca de 200 anos atrás. José Cesário, podemos dizer que é uma revolução, uma reviravolta no seio do PSD no que se refere às comunidades portuguesas?
Houve efetivamente uma mudança muito grande. Mas a mudança verdadeiramente vai-se concretizar a partir de agora.
Uhum.
O partido estava numa fase muito difícil, de muita desorganização, a estrutura estava praticamente ao abandono. Havia muito poucos militantes mobilizados na área das comunidades, isso traduziu-se num resultado eleitoral absolutamente desastroso, e evidentemente que agora vai ser preciso operar uma mudança muito grande, vai ser preciso reinstalar estruturas, reorganizar o partido, voltar a realizar eventos, preparar iniciativas políticas, ganhar a iniciativa, a agenda política, articular as coisas melhor entre o partido e o grupo parlamentar, e portanto temos uma mudança muito grande para operar, e espero que essa mudança venha a ser positiva para o partido e para as comunidades, que é aquilo que importa no final.
Aliás, o presidente do PSD, bom, não fez críticas diretas, mas implícitas, na medida em que ele afirma, e isso corrobora aquilo que vem dizer o Cesário: o PSD perdeu importância nas comunidades, é necessário recuperar intimidade com as pessoas, mais apoio às estruturas das comunidades. Portugal tem estado em ciclo de empobrecimento e por aí afora, seja que as comunidades são um grande potencial. Isto são, em resumo, aquilo que afirmou precisamente o presidente do PSD, isto a quando o encontro de verão das comunidades que se realizou, pensou, em 18 de agosto em Ourém. Este encontro, Carlos Gonçalves, era importantíssimo retomar este contacto anual com as comunidades.
Eu acho que era fundamental, tanto mais que o partido tinha essa tradição de organizar no verão um evento que reunia os nossos militantes e os nossos simpatizantes e dirigentes que eventualmente estariam em Portugal no período de férias. Era também uma mensagem política para as comunidades portuguesas no período em que uma grande maioria visita o nosso país em período de férias, E era fundamental também num momento em que temos uma nova liderança e, como o José Cesar acabou de referir, há uma tentativa de reorganizar o partido nas comunidades portuguesas, que o Presidente do Partido, o Vice-Presidente do Partido e o Secretário-Geral estivessem presentes num evento para, como é evidente, lançar, dar o pontapé de saída, permita uma expressão, daquilo que será o trabalho de reorganização do Partido Social Democrata nas comunidades. E como disse o José Cesário, e disse bem, é que o PSD, independentemente de estarmos a trabalhar para o partido, estamos a trabalhar para as comunidades, porque convém não esquecer que, goste ou não se goste, seja mais à esquerda ou mais à direita, o PSD foi sempre o grande partido impulsionador de iniciativas legislativas, dos direitos cívicos e outras matérias, e portanto é fundamental que este partido volte a ter junto às comunidades portuguesas o papel que já teve num momento que nós consideramos importante e em algumas áreas crítico na relação de quem reside no estrangeiro com o seu país, nomeadamente na área de âmbito administrativo e na questão da língua e outro tipo de direitos que os portugueses que residem no estrangeiro merecem ter uma atenção e uma particular atenção, porque, como disse Luís Montenegro, realmente é um valor estratégico para o país e é um potencial que não pode, para bem de Portugal e dos portugueses, ser desaproveitado.
Ora, Carlos Gonçalves, relembra, vai desempenhar as funções, o desempenho já de secretário executivo do secretariado, voltando assim a assumir responsabilidades igualmente, na coordenação da ação no terreno. Ora, precisamente a ação no terreno, José Cesário alertou para a questão da burocracia que os imigrantes enfrentam, não só nos países onde trabalham, mas também em Portugal, não é?
Sim, é uma questão que já é velha, não tem nada de novo, infelizmente.
Mas
já deram-se alguns passos, é verdade, eu tenho de reconhecer isso. Tenho sido a dar progressivamente passos positivos no sentido da simplificação administrativa, mas há muitos problemas. Quando vem o verão, mais, mas ao longo do ano nós somos permanentemente confrontados com telefonemas, e-mails, cartas de pessoas que nos expõem mais variado tipo de situações, tenham elas a ver com repartições de finanças, tenham elas a ver com conservatórias, tenham elas a ver com câmaras municipais, tenham elas a ver com os consulados, que é mais, as queixas mais frequentes, e portanto há efetivamente uma carga burocrática enorme na nossa máquina administrativa. Nós, como digo, simplificou-se alguma coisa no passado, eram espaços muito interessantes, muito positivos, mas há muito, muito, muito para fazer. E, portanto, nós, é claro que esta é uma área em que é essencialmente o executivo, quem está no executivo, que tem de ir produzindo as medidas e lançando as ideias, mas é evidente que nós vamos estar muito atentos ao que se vai passar e vamos estar muito ativos, quer na denúncia das falhas, quer até na adiantando algumas sugestões para que as coisas possam evoluir de uma forma mais positiva.
Ainda que, de qualquer maneira, não vale a pena falar com o Primeiro-Ministro, isso é o que eu digo, e assumo, é melhor ir falar com o Ministro das Finanças, porque ele é que decide, é a impressão que isto dá às vezes. Ora, já sabe, tive a ocasião de o entrevistar naquilo que se passou em frente da Embaixada de Portugal na Argentina, na medida em que em comunidade havia pessoas que há 3 anos estavam à espera de ter uma vaga, ter o agendamento. Há pessoas que não podiam ir de férias porque não tinham o passaporte. Outros, que o vale é que tinham a dupla nacionalidade, tinham que pedir um visto, digo bem, um visto, à Embaixada de Portugal para poder ir de férias a Portugal. Uma coisa é certa, é que no dia da manifestação, como o milagre de Buenos Aires, não é de Fátima, apareceram imediatamente, agendamentos apareceram. Mas agora gostava que ouvissem e depois comentassem aquilo que afirmou há 2 dias atrás, em Maputo, o Primeiro-Ministro português António Costa. Peço a vossa atenção, se for necessário podemos passar o som 2 vezes. António Costa.
É um sonho que acalento e que gostaria de ver realizado, que é conseguirmos ter um consulado no telemóvel de cada um de nós e podermos ter um contacto permanente com as autoridades portuguesas a partir de cada um dos telemóveis.
Uma reação, José Sério.
Bem, eu devo dizer que não posso estar mais de acordo, eu também tenho esse sonho. E, portanto, espero ansiosamente que o Sr. Primeiro-Ministro o concretize. É o que lhe posso dizer. Agora, vamos lá ter a noção daquilo que é a demagogia. Se nunca os consulados funcionaram como hoje, em termos de incapacidade de resposta para as pessoas, como é que é possível ouvir isto neste momento? Eu sei que o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Governo, de modo geral, têm dinheiro. Tanto quanto nós sabemos, há de muitos milhões de euros para a modernização da máquina, das estruturas do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Fala-se em mais de 20 milhões de euros. Isto nunca aconteceu. A título de exemplo, eu tenho dito em muitos sítios que eu lancei o programa das novas permanências consulares com os equipamentos móveis, que permitiram levar os consulados até junto das comunidades mais periféricas, com 360 mil euros. Portanto, isto diz bem o que significa ter 20 milhões de euros para modernização de equipamentos informáticos. Agora, a questão é utilizá-los de uma forma adequada e não voltarmos àquelas experiências que já vivemos no passado, aquela experiência daquele célebre consulado virtual aqui do tempo do Dr. António Braga, ou, se quisermos também, mais recentemente, do Espaço Cidadão, que foram experiências em que se gastou muito dinheiro e não serviram literalmente para nada. Para nada. Em alguns casos foram equipamentos para o lixo porque eram completamente inúteis. Depois há aqui um outro aspecto que é preciso terem atenção. É preciso terem atenção que quando falamos de atos administrativos que se prendem, por exemplo, com nacionalidades ou com a obtenção de documentos de viagem, há questões de segurança que são muito importantes, não é? Porque senão o nosso passaporte, que nós nos orgulhamos, que é aceito em todo o mundo, se não for obtido e tratado com a devida segurança, deixa de ser aceito. Por exemplo, os americanos têm um programa que é o Visa Waiver, em que excluem ou incluem restrições a todos aqueles países em que não cumprem, de facto, condições que consideram essenciais em matéria de segurança, estando nós, vivendo nós, infelizmente, uma era em que, como sabemos, o terrorismo marca o dia-a-dia da vida de muitos dos nossos povos. E, portanto, essa questão da segurança também tem de ser tida em consideração.
Podemos avançar um bocadinho, porque o tempo também anda. Por exemplo, em princípio está agendada uma greve a partir de amanhã dos trabalhadores consulares no Brasil, mais concretamente, penso eu, em São Paulo. Precisamente isto ocorre durante uma visita do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, em causa está um mecanismo das perdas cambiais dos funcionários consulares, mas a propósito disso Carlos Gonçalves, conhece bem a situação na Europa e particularmente Paris. Paris, ao que parece, tem novos cinco funcionários. E funcionários esses que teriam sido recortados em Portugal, porque aqui ninguém aceita os salários propostos. Ora, concretamente, essas pessoas que vieram de Portugal desconhecem completamente a lei francesa, desconhecem completamente aquilo que é a vida dos portugueses residentes aqui em França. Será que essas pessoas podem ser eficientes? Porque ao fim de 6 meses, 1 ano, de estarem no consulado?
Olha, em primeiro lugar, permita-me só faça uma nota sobre as declarações do seu Primeiro-Ministro do Consulado do Telemóvel, porque, salvo erro, há cerca de 1 ano e meio, numa deslocação a Andorra, suponho acompanhando o Presidente da República, o seu Primeiro-Ministro teve uma declaração idêntica, dizendo que o Consulado estava agora à distância de um clique no telemóvel. E, portanto, isto não é novo, é recorrente, só que o problema é que o tempo vai passando e os portugueses esperam e desesperam, junto dos consulados, para poderem ser atendidos. O recrutamento de trabalhadores, realmente, nestes últimos 7 anos, tem sido claramente insuficiente. Houve um conjunto de promessas ao longo do tempo, nunca elas concretizadas, e os consulados estão em ruptura completa de atendimento, também os de França, e mais do que isso, os consulados praticamente dedicam-se ao trabalho administrativo, não, fazendo trabalho político, que em alguns países é fundamental, independentemente de terem vários diplomatas no exercício. O recrutamento que me fala, e outros concursos que ocorrem pelo mundo fora neste momento, tem um problema, porque os vencimentos são baixos e normalmente é difícil, por vezes, encontrar candidatos, nomeadamente em países como os Estados Unidos, mas mesmo em França, os filhos dos imigrantes, os netos e os bisnetos que vivem em França, que vão ao mercado de trabalho, que veem que há um concurso para o Consulado de Portugal, veem que as condições de recrutamento não são tentadoras e, portanto, não concorrem, mas quem está em Portugal, ao ver os salários praticados no estrangeiro, pensa que são remunerações muito importantes e arrisca e concorre, e neste caso entraram funcionários em Paris e noutros países que são fundamentais. Mas nós temos sempre que ver duas coisas. E o Artur Silva acompanha esta matéria e conhece bem os consulados, nomeadamente os de França. Há um envelhecimento dos quadros pessoal, o que quer dizer que há muitas pessoas que estão a aposentar e por vezes os chefes de posto ficam contentes com o recrutamento de trabalhadores, mas depois estão surpreendidos ou não, mas sabem que há um conjunto de trabalhadores que vão para a reforma. E, portanto, o saldo final, ou é zero, praticamente é negativo. Quanto à formação impar e administrativa, é verdade que os consulados, nomeadamente no de Paris, há um trabalho muito grande de facto de dar formação muito rápida a estes trabalhadores. Eu reconheço que por todo o mundo, talvez a intensidade de trabalho dos funcionários consulares nunca foi tão grande como hoje, e esta intensidade de trabalho talvez nunca tenha tido os níveis que agora tem, e colide realmente com uma realidade que é nunca os consulados, que eu me recordo depois do 25 de Abril, terem tido tantos problemas no atendimento. Isto é qualquer coisa de extraordinário, quer dizer, é impossível que hoje estejamos a falar de novas tecnologias, a prometer os consulados no telemóvel, e aqueles que nos escutam na Rádio Alfa através de França e através do mundo devem ficar surpreendidos, coitados, que nem sequer muitas vezes conseguem um agendamento, nem conseguem ser atendidos ao telefone, e isto não é culpa pelo posto, pelos funcionários ou pelos seus chefes de posto, é que a gestão de recursos humanos e a sensibilidade da governação para a área das comunidades portuguesas foi claramente descurada, com consequências graves para estes portugueses, e o caso da Argentina é um caso que deve fazer refletir todos aqueles que tratam de questões relativas às comunidades portuguesas e àqueles que no estrangeiro continuam a dignificar o país.
Aliás, a central, como mesmo lhe chama, alfândega da fé. Bem, enfim, resta saber qual é a formação que essas pessoas têm, porque cada país tem problemas específicos. Antes de passar à questão da língua portuguesa, uma pequena notícia que a Lusa publicou no dia 25 de agosto, Madrid. Michel, o bebê português que foi apátrida durante um ano e 14 dias, nem mais nem menos, isto aconteceu com um casal, ele é português, a mãe é espanhola, mas impossível ter agendamento, tentaram mesmo ir a Portugal e por aí afora, e foi necessário que a imprensa pegasse nisto para que o problema fosse resolvido. Digo bem, um ano e 14 dias, o bebê foi apátrida. Pátrida, nem mais nem menos. Ora, no passado 24 de agosto foi festejado os 50 anos do ensino português no estrangeiro, e os primeiros cursos precisamente foram criados em Luxemburgo por via da portaria 493/72. Ora, rapidamente peço a um e ao outro, José Cesário, a nível do resto do mundo, como costuma dizer, que era o círculo onde foi eleito diversas vezes deputado, 50 anos depois da criação dos primeiros cursos no Luxemburgo, resumidamente, qual é a situação hoje no resto do mundo e a língua portuguesa?
Não se avançou muito, há que o reconhecer. No plano universitário há bastante mais acordos com universidades, há um conjunto de leitorados, mas a nível do chamado ensino básico não se avançou muito. Há as iniciativas das próprias comunidades em variedíssimos países, como os Estados Unidos, como o Canadá, como a Austrália, como a África do Sul, não se avançou muito. As últimas medidas tomadas nesta área, verdadeiramente, foram a que foi a criação das coordenações de ensino da Austrália e da Venezuela, que foram criadas por mim. Portanto, já lá vão, neste momento, uns 9 anos. Portanto, há que ter em consideração que a rede está praticamente estagnada desde há 8, 9 anos. As comunidades aumentaram muito, e é bom dizer que aumentaram muito, especialmente em países como o Reino Unido, como a Suíça, como a Espanha, neste momento é o primeiro destino em termos de imigração, e França também. As comunidades aumentaram muito e essa rede mantém-se praticamente intocada.
E com menos professores, em princípio. E menos
professores. Em alguns casos. Embora não sejam muitas diferenças, mas há de facto alguns casos com menos professores. Uhum. Há inclusivamente um caso em que desapareceram praticamente os professores da chamada rede pública, que é o caso da África do Sul. Aí as razões têm a ver com questões de natureza de segurança e que são extremamente complexas. Portanto, não se evoluiu. Esta é uma área, eu já o disse, é uma área em que nós vamos ter de ter o governo sob grande escrutínio. Efetivamente, se as comunidades são muito maiores, se temos muitos novos imigrantes, é bom ter em consideração que as Nações Unidas atualizaram o número de emigrantes, ou seja, pessoas nascidas em Portugal que vivem no estrangeiro, que até há 5 anos atrás, eram consideradas, o número que existia eram 2 milhões e 300 mil, e neste momento as próprias Nações Unidas já dizem que são 2 milhões e 600 mil pessoas, portanto, nascidas em Portugal, que vivem no estrangeiro. Isso. Portanto, isto significa que as respostas têm de aumentar, sejam elas em articulação entre o Estado e as iniciativas locais, que é aquilo que eu defendo, sejam elas do próprio Estado, ou só do próprio Estado, ou até só das próprias comunidades ou de outros Estados. Mas têm de aumentar. E aí, evidentemente, quer dizer, nem, o Estado não, vai, não faz tudo, não é o governo português que vai fazer tudo, mas tem de ser muito mais proativo neste domínio do que tem sido, até porque é gritante a redução dos recursos do Instituto Camões. Fala-se agora muito em investimento, também no âmbito do tal pacote dos 20 milhões de euros, investimento, muito mais investimento, sobretudo em ensino à distância, que eu tenho sérias dúvidas que, pelo menos no caso da Europa, responda àquilo que são as necessidades concretas das nossas comunidades. Seja como for, vamos aguardar para ver que novidades temos.
Carlos Gonçalves, precisamente, bom, a França talvez seja o caso, digamos, mais flagrante daquilo que se passa. Há acordos assinados e há convenções entre o governo português e o governo francês. Aqui em França houve uma importante reforma do BAC, igualmente também do Liceu, de maneira que, bom, o português aqui tornou-se uma espécie de língua rara. Mas concretamente, qual é o olhar que tem sobre esta questão na Europa e finalmente a França, ao que parece, não é o país que está na pior situação?
A França independente tem uma história naquilo que é o ensino integrado. É evidente que houve aqui uma clara desvalorização da presença do português no ensino oficial francês. Falou da reforma do BAC, eu como deputado insurgi-me sobre esta questão, tentei mobilizar políticos de origem portuguesa, deputados franceses, estive mesmo reunido na Assembleia Nacional Francesa, e o que se passa é que aquilo que se passou com o facto da língua portuguesa deixar de ser a língua de especialidade no final do ensino secundário é realmente muito grave para aquilo que é o estatuto da língua portuguesa e para a continuidade, que é aquilo que é fundamental para quem está no ensino oficial francês. Ou seja, que desde o primário até o universitário, os alunos numa região ou numa zona concreta no plano geográfico possam ter cursos de português no ensino oficial. E, portanto, houve aqui uma desvalorização, digamos, da língua portuguesa em França, do seu estatuto, e isto tem uma evidente implicações a vários níveis, e houve um acordo assinado que, da parte francesa, só foi cumprida, em minha opinião, naquilo que era mais interessante para os franceses e para o seu Ministério da Educação, deixando para trás um pouco Portugal, a língua portuguesa e o papel de Portugal, porque, independentemente de tudo, o investimento de Portugal no ensino do português no estrangeiro é muito grande, e em países como o Luxemburgo é praticamente suportado por Portugal, e as autoridades portuguesas não podem, na relação bilateral com estes países, deixar de defender os interesses de Portugal, é certo, mas de uma comunidade alargada e importante no plano económico e social que reside nestes países. E, portanto, o contexto da França é um contexto que a situação de há uns anos atrás, quem se lembra da Solange Parvaux, e nós já temos alguma idade e lembra-se destes tempos, não quer dizer que fossem os melhores tempos, mas foram tempos em que a língua portuguesa tinha conseguido uma afirmação em termos de oferta, que realmente em um momento em que a nossa comunidade nem sequer tinha o peso que hoje tem e a integração que hoje tem. Relativamente ainda àquilo que foi dito, nós também temos muito ouvido nos últimos tempos, isto tem implicações a vários níveis, que é a questão que o José Cesário citou do ensino à distância, mas quem reside no estrangeiro, nomeadamente na Europa, acho que vai ser complicado uma aplicação concreta desta metodologia, mas quem vive cá fora lembra-se de duas experiências. A primeira, a escola virtual, como sabemos, foi um fracasso inacreditável. Já com este governo, o Portugal Mais Perto, outra plataforma de ensino à distância, e até hoje ninguém percebeu o alcance, nem ninguém percebeu quantos alunos beneficiaram destas duas estruturas que foram criadas em governos diferentes do Partido Socialista. E, portanto, o ensino à distância, independentemente de haver disponibilidade financeira para poder avançar com estes projetos, deixa quem está no estrangeiro, seja aos pais de alunos, seja aos docentes, algo preocupados, porque já houve duas experiências que correram mal, eu diria que correram muito mal, e é bom reconhecer que os erros do passado, para que depois possamos, agora, avançar com propostas que permitam responder às necessidades das nossas comunidades e entender que ensinar a língua portuguesa na Europa, com uma grande proximidade ao país, a Portugal e países da União Europeia, não é a mesma coisa que está, como é evidente, a prestar cursos de português noutros continentes, em que a repartição dos portugueses
é distribuída em horizontes geográficos muito alargados.
Obrigado, José Sérgio. Obrigado igualmente, Carlos Gonçalves.
Muito obrigado.
Uma pergunta agora para o Sr. Coordenador de Secretariado Nacional do PSD para as Comunidades Portuguesas. Pergunta: será que está prevista uma reunião das estruturas do PSD na diáspora para fazer um balanço e delinear talvez um sétimo de projetos ou não, José Sérgio?
Sim. A nossa intenção é fazer, no primeiro semestre do próximo ano, voltar a fazer o encontro, os encontros, os chamados encontros regionais, ou neste caso concreto, o encontro da Europa, e eu tenho a expectativa, pelo menos no Brasil, poder vir a fazer uma coisa idêntica, não talvez no primeiro semestre deste ano, mas até inícios de 2024, porque é preciso pôr as estruturas a articularem coisas umas com as outras. Também é bom dizer que no encontro de Orem, que tivemos há uns dias, já tivemos presentes representantes de variadíssimas comissões políticas que nos permitiram também já iniciar esse trabalho de permuta, de experiências e de partilha.
Portanto, isso foi no dia 16 de agosto, salvo erro.
18 de agosto.
18 de agosto, e havia, realmente, 12,5 de países que estavam representados. José Cesário e Carlos Gonçalves, muito obrigado. Evidentemente que vamos estar atentos àquilo que se vai passar, às decisões do Governo, a começar pelo Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo, e evidentemente vamos pedir a vossa opinião e as vossas sugestões ou críticas ou dizer, ou bater de palmas a dizer que está bem. Muito obrigado aos dois e até muito breve.
Obrigado, então. Obrigado, bom dia.
Obrigado, bom dia.
E nós voltamos dentro de alguns instantes. Revient au direct passage à niveau. Je vous rappelle, ce dimanche 4 septembre, c'est la rentrée. Rentrée pour nous, rentrée scolaire, mais ça concerne la rentrée universitaire. Ça, il faut attendre encore quelques semaines. Et pour nous parler de l'université, et pas seulement des enseignants-chercheurs, etc. Bon, il y a plein de choses qui ne vont pas, ça date pas d'aujourd'hui, mais enfin, pour nous parler de cette question, on a un professeur universitaire et vice-président de l'Université Paris-Est-Créteil, Monsieur Guillaume Poiré, bonjour.
Bonjour.
Alors, merci déjà d'être avec nous. Alors, si mes informations sont exactes, vous êtes agrégé docteur en géographie et aménagement, donc à l'université ici UPEC, comme on dit. Vous êtes maître de conférence en géographie et aménagement. Donc, vous avez fait cette onde de recherche, notamment sur l'Amérique du Nord. Peut-être une petite explication exactement?
Oui, alors donc ben, je travaille sur les métropoles nord-américaines, plutôt celles qui sont en déclin, donc Détroit qui est la plus connue, mais également Baltimore, Cincinnati, Pittsburgh. C'est alors si la question est pourquoi est-ce que j'ai choisi de me spécialiser là-dedans, c'est compliqué. Je pense que c'est plus parce que j'ai eu l'occasion d'aller régulièrement dans ces espaces et que la manière dont ils évoluaient était assez intéressante et que ça m'a donné envie d'aller travailler davantage sur ces questions et de voir un peu comment ça se passait au quotidien.
Oui, parce qu'un filigrane, il y a une question de justice sociale aussi, non?
Tout à fait. Ce sont des métropoles dans lesquelles, en général, les catégories riches sont parties assez rapidement et désormais, elles se trouvent en face de populations qui sont plutôt défavorisées, sans avoir nécessairement les moyens de les aider, puisque leurs finances ont considérablement diminué à mesure que la population partait.
Voilà. Il faut dire qu'aux États-Unis, il faut payer la sécurité sociale, etc., parce que maintenant, je me rappelle les usines automobiles à Detroit, et je compare ça avec le drame de la sidérurgie en France, en Lorraine, j'en passe les meilleurs, mais enfin. Alors, enseignant-chercheur, on peut dire qu'un de ces jours, vous allez devenir un genre d'une rareté ici au sein de l'université française, parce que d'une part, il y a le gel des postes, et d'autre part, bon, au fur et à mesure que les enseignants-chercheurs partent à la retraite, ils ne sont pas remplacés. C'est un tableau sombre que je viens de faire.
C'est un tableau sombre, mais ça correspond à une partie de la réalité. Il est vrai que ça dépend des universités, mais il y a des universités en France qui ont gelé un, plusieurs postes, voire la totalité des postes, pendant, ça fait déjà 2, 3, 4, 5 ans pour certaines. Ça veut dire qu'elles n'embauchent plus d'enseignants-chercheurs, et à mesure que certains s'en vont, ils ne sont pas remplacés. En fait, on voit fleurir de plus en plus sur les sites spécialisés d'enseignement. Moi, je sais pour la géographie, mais je vois aussi pour mes collègues historiens me disent la même chose, et mes collègues de lettres également, un certain nombre de vacations qui sont proposées aux enseignants pour dire, voilà, est-ce que vous voulez faire quelques heures de TD à l'université? Et en fait, la multiplication de ces offres, ça traduit simplement le fait qu'on a de moins en moins de postes et donc de plus en plus d'heures disponibles et pas de personnes pour les faire.
Oui,
donc, parce... on passe par les vacations, ça coûte moins cher.
Voilà, non, mais quand on dit enseignant-chercheur, donc est-ce que vous avez le temps de continuer vos recherches?
Alors, avec mon poste actuel de vice-président, non, faut être honnête, c'est un peu compliqué. Et puis, accessoirement, le Covid n'a pas aidé. Hein. Quand on travaille sur l'Amérique du Nord, ça veut dire que moi, je n'ai pas été aux États-Unis depuis 2019. Hein. Là, c'est la première fois que j'y ai retourné cet été. Ça faisait 3 ans, donc. Hein. Donc, moi, c'est un cas particulier, mais après... il est vrai que le deuxième cas particulier, c'est qu'étant vice-président, j'ai une décharge qui comprend aussi les aspects recherche. C'est compliqué d'être vice-président et de faire de la recherche. Maintenant, si on prend un professeur normal, il faut que les gens comprennent. On a à peu près 200 heures à faire par an. Alors, j'aimerais dire, c'est pas grand-chose. Oui, mais en fait, pour chaque heure qu'on fait, il y a à peu près 3 heures de préparation, correction, etc. Donc, au final, on nous demande de faire à peu près 800 heures par an. On a 200 heures effectives devant les étudiants, plus à peu près 600 heures qui consistent à préparer le cours, mais surtout à corriger les copies, etc. Avec 800 heures, vous rajoutez après le travail administratif. Comme il y a très peu d'enseignants, on est responsable de licence ou responsable de master, etc. Ce qui suppose de choisir les étudiants qui vont venir, d'être là pour les conseiller, de répondre à leurs demandes, etc. Au final, si on devait s'en tenir à simplement, un travail annuel normal, je pense que passé l'enseignement, on devrait être à peu près deux tiers du temps effectué, donc un tiers du temps pour la recherche. Je signale juste que c'est théoriquement l'inverse. On doit enseigner un tiers de notre temps et faire de la recherche les deux tiers du temps restant. C'est donc, on a renversé la perspective. Ça veut dire qu'on fait de moins en moins de recherche, notamment pour un certain nombre de collègues.
Alors, il y a, parallèlement, quand on est chercheur, forcément, on doit publier ses travaux. Bon, et là, c'est encore une autre affaire, parce que c'est vrai que ça concerne les enseignants-chercheurs et les universités où ils enseignent. Ça compte parce que, si, à partir du moment qu'il n'y a pas beaucoup de publications, ceci, c'est là, les financements, ils sont réduits, ça correspond à une réalité, ça?
Alors oui, parce que il y a une particularité première, c'est que la publication, ça dépend un peu de la matière que vous enseignez. D'accord. En géographie, par exemple, la publication dans des périodiques est plutôt recommandée. La publication d'ouvrages l'est beaucoup moins, c'est moins valorisé. Il y a des domaines, par exemple l'économie et gestion, c'est plutôt l'inverse. C'est pas mal de publier des ouvrages et c'est moins bien de publier des articles. Donc ça dépend des disciplines. Mais en règle générale, effectivement, un chercheur, il est là aussi pour diffuser sa recherche, non seulement à ses pairs, mais aussi, ça fait partie du métier, on appelle ça la vulgarisation, c'est-à-dire diffuser aussi ses recherches à un certain nombre de personnes qui ne sont pas spécialistes. Ça fait partie de notre métier, donc il faut diffuser. Il est vrai que moins vous diffusez, moins vous allez être perçu comme faisant de la recherche effective par les personnes qui vont examiner vos dossiers lorsque vous faites des demandes de bourse auprès de l'Agence sociale de la recherche, par exemple, ou d'un certain nombre d'organismes similaires. Moins vous publiez, moins vous êtes considéré comme chercheur actif. Et ça va jouer sur la crédibilité, on va dire, de votre dossier.
Voilà, alors il y a davantage d'élèves, d'étudiants, et de moins en moins d'enseignants-chercheurs. Bon, j'ai lu ça quelque part, qu'apparemment entre 2021 et 2029, les départs, je dis bien les départs à la retraite, ils sont en hausse de 53% en moyenne et de 97% en sciences. Bon, ça c'est une note qui a été publiée au mois de juillet par le service de statistique du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc c'est le cas de le dire, finalement, c'est pas la fonction elle-même de l'université qui est remise en question, parce qu'en principe l'université, ça participe et de quelle manière à la formation des citoyens.
Oui, en effet, on va dire que le nombre d'étudiants qui augmente, on le sait depuis les années 2000. On sait que le nombre d'étudiants va augmenter depuis les années 2000. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une augmentation des naissances dans les années 2000, que on appelait ça le boom de l'an 2000. Ça, c'est une conséquence. Quand vous avez X personnes qui naissent dans les années 2000, vous savez que vous allez les retrouver dans 20 ans à l'université. Alors, pas toutes, mais vous savez à peu près quelle proportion vous allez les retrouver. Et on savait que les effectifs allaient augmenter, et on savait que les effectifs allaient augmenter pendant les 10 années qui allaient suivre. Donc, on est en 2022, on a la première génération du boom de l'an 2000 qui arrive, et on n'a pas en face les infrastructures, je parle même du matériel, on n'a pas les bâtiments nécessaires pour les accueillir. Vous avez des universités, je pense à la Sorbonne Nouvelle, qui ont été obligées de retarder la rentrée de 15 jours, parce que le nouveau bâtiment qu'ils venaient de faire construire était pas encore tout à fait opérationnel. Vous avez des universités, donc ils ont de la chance, ils ont un bâtiment quand même, mais vous avez des universités qui n'ont pas de bâtiment supplémentaire, donc à moins d'augmenter les horaires de cours jusqu'à 22 heures, ça ne pourra pas rentrer. À moins de créer des nouveaux bâtiments par un coup de baguette magique, ça ne pourra pas rentrer non plus. On arrive à un moment où il va falloir investir fortement si on veut arriver à accueillir correctement les étudiants. C'est aussi valable pour les postes. Si vous avez plus d'étudiants, c'est-à-dire que vous avez plus d'heures de TD, plus d'heures de cours. S'il n'y a pas en face d'enseignants pour les donner, on ne sera pas en capacité de le faire. Et à ça, vous ajoutez un deuxième effet ciseau, c'est qu'en plus, beaucoup d'enseignants ont été recrutés dans les années 80-90. Ils partent bientôt en retraite, pour certains. S'ils ne sont pas remplacés, on va arriver à une situation où on a plus d'un côté, beaucoup plus, et beaucoup moins de l'autre. Je pense qu'on va être dans une situation relativement compliquée. Soit on va devoir nous faire passer à 300 heures, mettons, annuelles pour faire des courses, qui va être un peu compliqué si on veut faire de la recherche en même temps. Soit il faut, ce qui est demandé par beaucoup de nos collègues, il faut qu'il y ait des embauches. Pas nécessairement massive, ça sert à rien de compenser en une année ce qu'on n'a pas fait en 15 ans, mais qu'il faut par contre envoyer un message clair qu'on recrute à l'université, et ça pour l'instant ce message il n'est pas envoyé.
Mais ça n'empêche que le message du gouvernement, la recherche c'est fondamental, il faut que la France elle avance dans haute technologie, etc., etc. Bon, et en attendant, je ne veux pas dégoûter les futurs étudiants universitaires, loin s'en faut, mais enfin bon, quand on voit des amphithéâtres comme on dit, qui sont pleins à craquer et plein d'élèves assis sous les marches, mais enfin, alors justement c'est là où je veux venir, ce sera ma dernière question, monsieur Poiret, c'est s'agit du financement. Financement, parce qu'en principe c'est un financement public, les propines, bon, on a parlé les droits d'inscription, il y a des universités qui ont voulu augmenter ça énormément, parce que maintenant il y a chaque université va être gérée toute seule, elle peut se gérer toute seule, il y a les fameux PPP, à savoir les partenariats publics-privés. Et la Cour des comptes, il paraît qu'elle a critiqué sévèrement ces PPP. Vous pouvez nous expliquer ?
En fait, le problème des partenariats publics-privés, c'est qu'il y a une dissymétrie d'information et de possibilités de négociation. Pour faire simple, un PPP, c'est une négociation avec une entreprise ou un consortium et un acteur public de l'autre. Donc, on a un acteur public qui a des moyens limités. Si on parle d'une université, d'un point de vue strict, le service juridique d'une université est quand même assez limité. Je crois qu'à l'UPEC, ils sont une petite dizaine, ce qui n'est pas énorme. Et en face, on a des gens qui sont beaucoup mieux formés, qui ont des cabinets spécifiques là-dessus, qui sont en capacité de négocier. Le problème, c'est quand vous négociez un contrat et que il y a une asymétrie de formation d'un côté d'une part et d'autre, vous savez que le contrat va être asymétrique et ça va se terminer sans doute en votre défaveur. Donc ça coûte moins cher, c'est ce qui a été incitatif pour les PPP, ça coûte moins cher sur le court terme, ça coûte plus cher sur le long terme, et surtout le public est pour la même chose aurait payé sans doute moins cher s'il était passé par ses propres services. La seule chose, c'est que pour se faire, pour passer par ses propres services, encore faudrait-il qu'il ait les moyens. C'est un peu comme si je vous disais, si aujourd'hui vous avez 1 million, vous êtes incapable d'acheter une maison. Par contre, si vous n'avez pas ce million, écoutez, c'est pas grave. Vous pouvez emprunter sur 100 ans, et puis je vais vous faire payer uniquement, mettons, 15 000 euros par an. Le principe, c'est que sur 100 ans, 15 000 euros par an, ça fait que vous allez payer 1,5 million à la fin, alors que ça vous aurait coûté 1 million. Si vous aviez payé ça tout de suite. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne avec nous, c'est qu'on nous dit, vous n'avez pas les moyens maintenant, passez par un PPP, ça vous coûtera moins cher. Le problème, c'est que oui, ça coûte moins cher au départ, à l'année, ça coûte plus cher à la fin en termes de finances publiques, c'est peut-être pas nécessairement ce qui était le plus judicieux, parce que bien évidemment, L'exemple du particulier est un peu particulier, est un peu spécifique. On n'a pas tous 1 million d'euros. Par contre, on peut envisager quand même que l'État ait les moyens de pouvoir emprunter davantage et de ne pas passer par quelque chose qui lui coûte plus cher à la fin en termes de dépenses publiques. Or, les PPP coûtent toujours plus cher à la fin.
D'ailleurs, ça me fait rappeler le Pentagone à la française, justement, que l'État paye un loyer pendant 20, 30 ans, un truc comme ça, mais enfin, on parle pas de ça. Parce que ça concerne justement les étudiants, parce que bon, ils se retrouvent aussi dans une situation assez difficile, parce qu'en plus, vous, enseignant-chercheur, un chercheur, il fait sa recherche, il trouve. Et avec ces PPP, finalement, il n'y a pas tout un tas de trucs que les chercheurs trouvent, qu'ils mettent au point, et qu'après c'est récupéré par le privé. Donc il y a la plus-value qui échappe complètement à l'enseignement public, et pas seulement, même à l'État.
Alors c'est vrai, cela dit, là pour le coup, je pense que l'État a un peu tendu longtemps les bâtons pour se faire battre, c'est-à-dire que l'État n'est pas très très fort pour mettre en valeur ce qu'il trouve. C'est dommage, mais l'État est pas à jamais. Ce serait un peu excessif d'être aussi général. Mais il est vrai que généralement l'État a du mal à mettre en valeur ce qu'il trouve, ce qui incite plus souvent à faire des partenariats avec le privé lorsqu'il y a une découverte pour la mettre en avant. On constate souvent que l'État, enfin le CNRS notamment, a rarement réussi à bien mettre en valeur ce que ces chercheurs avaient réussi à trouver, et souvent ça s'est terminé par des ventes de brevets au privé. Donc ça, c'est peut-être là-dessus qu'il y a une difficulté, on va dire, pour l'instant, c'est que il y a une certaine forme encore de complexité pour l'État à arriver à mettre en valeur concrètement ce que ses effectifs de recherche en sont parvenus à trouver. Le privé s'en sort beaucoup mieux que nous là-dessus. Faut le reconnaître, hein.
Non, mais
on est moins bon que le privé.
Ouais, tout à fait. Bon, mais ça date pas d'aujourd'hui ni d'hier, donc s'il n'y a pas une volonté politique pour le faire, enfin. Monsieur Guillaume Poiré, merci. Je rappelle, vous êtes professeur universitaire et vice-président de l'Université Paris-Est et Créteil. Alors, les domaines de votre fac, lettres, langues, droit, économie, gestion, sciences, technologie, sciences humaines, sciences sociales et santé. Une dernière question, la rentrée chez vous, c'est prévu pour quand?
Il n'y a pas de réponse unique, ça va dépendre des facultés où vous êtes. Vous avez des facultés qui vont reprendre dès cette semaine quasiment. D'autres, moi, la mienne par exemple, reprend la troisième semaine de septembre. Donc j'ai encore 2 semaines de réunion avant de voir effectivement les étudiants. Voilà, donc ça dépend. C'est le cas pour les sciences. Sciences et lettres reprennent à peu près au même moment. Par contre, les IUT que nous avons reprennent plus tôt. Donc voilà, il n'y a pas une rentrée unique. On a des rentrées qui sont différentes suivant les facultés.
Et qui vont s'échelonner pendant tout ce mois.
Tout le mois de septembre.
Voilà.
C'est ça.
Merci, monsieur Poiré. Merci. Et à très bientôt, parce qu'on va suivre ce qui se passe chez vous, et pas seulement, dans les autres universités aussi. Merci bien.
Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Merci.
Et, outro setor, saúde, nem mais nem menos. Bom, estamos a preparar uma emissão sobre a saúde aqui nas próximas semanas, voltamos a falar nisso, tanto mais que vão haver 2 jornadas de mobilização, por um lado no dia 22 de setembro, organizado pelo CGT Santé, e depois Intersindical FOE, SFTT e LUNSA têm igualmente uma jornada de mobilização e greve no dia 27 de setembro. Nada melhor que irmos aos nossos arquivos, voltamos em 2019, estão lembrados? Havia uma história qualquer, Covid, é uma canção e um vídeo extraordinário, Enfermière de Valence.
Un jour les politiques ont voulu faire du fric
sur la santé des gens, certains sont nos patients. Comment peut-on s'y prendre pour enfin se faire entendre? On va vous raconter ce qui se passe au CHV, chez nous sur les urgences, au lieu de maltraitance, des heures sur un brancard, tiens voilà une escarre. Nous on fait tout ce qu'on peut, on veut prendre soin d'eux, mais plus le temps de rien et on n'a plus de moyens. Ici se joue un drame et là on sonne l'alarme, ça nous fait mal au cœur mais on bosse dans la peur. Débloquer des crédits, ne fermez plus les lits, conserver tous nos postes, assurer nous des stocks. Dans le couloir des urgences, tellement on a de brancards, défaut de surveillance, pour se mordre c'est trop tard. Le fruit de décision et sans concertation, auprès de nos bonnes pommes, et là tout qui décolle, le soin notre vocation, devenu des illusions, on ne sait pas.
pas leur dire et c'est devenu de pire en pire. Si t'as envie de pisser, faut pas être pressé. Si t'as envie de manger, mieux vaut pas y penser. Oupsam et mes huguettes, qu'on a jusqu'aux chaussettes. Et la bonne sur la fleur qui se tord de douleur. On veut plus de matériel adapté à ce bordel. Des draps, des couvertures, des bouteilles d'oxygène et des médicaments en nombre suffisant. Un peu plus qu'une salade à donner aux malades. Ils coupent tous nos moyens, ils disent ça ira bien. Attention, il y a urgence, c'est fou, ça se passe en France. Nos médecins n'en peuvent plus, c'est simple, on n'en trouve plus. Prendre soin des patients, c'est pouvoir prendre le temps de leur tenir la main, de leur mettre un bassin. Rassurer les familles, putain, sont des humains. On manque de personnel, d'une prise en charge humaine. Plus le temps les écouter, pas moyen de bien soigner. Entendez notre peine, ce boulot c'est sûr on l'aime. Soyez sûr on le perd, y'a la colère dans le cathéter. Pendant partout en France, les gens partent en vacances. On nous dit qu'aux urgences, on n'aura pas cette chance. On veut plus de matériel, adapté à ce bordel. Des draps, des couvertures, des bouteilles d'oxygène. En nombre suffisant, un peu plus qu'une salade à donner aux malades. Ils coupent tous nos moyens, ils disent ça ira bien. Attention, il y a urgence, c'est bon, ça se passe en France. Entendez notre peine, l'eau c'est sûr on l'aime. Soyez sûr on le perd, y'a la colère dans le cathéter. Ce qui se passe au CHV, dans les urgences de France, ne peut pas rimer avec rentabilité.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Deuxième heure de passage à niveau, c'est dimanche 4 septembre. Je rappelle l'émission à rediffusion dans la nuit de mercredi à jeudi à partir de 0h. Rentrée scolaire, ça y est, ça a été jeudi dernier, ni plus ni moins. Mais rentrée scolaire, quelle rentrée scolaire? Apparemment, il manquait 8000 professeurs. On a trouvé 4000. Est-ce qu'ils sont des professeurs ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'une formation 3-4 jours suffit pour que des gens respectable, bien entendu, et puisse enseigner nos enfants un point d'interrogation. Pour parler de cette situation-là, et pas seulement, on a avec nous le secrétaire général de la Fédération des conseils de parents d'élèves et FCPE, Monsieur Éric Labastide. Bonjour.
Bonjour.
Alors, cette rentrée de 2022-2023, en résumé, on peut mieux faire?
On va dire, on n'aime pas trop à la FCPE faire des évaluations, en tout cas que nos enfants aient trop d'évaluations, mais là, on va se permettre de faire une évaluation du ministère, on va dire convenable à acceptable. Donc voilà, oui, le ministre a promis de mettre un enseignant devant chaque classe. Mmh. Il y a certes un effort qui a été fait pour que le Zoom très médiatique de la rentrée scolaire montre que il n'y ait pas beaucoup, mais il y en a eu, mais il n'y ait pas beaucoup de trous dans la raquette. Notre inquiétude, c'est comment ça va se passer dans les semaines à venir.
Oui.
Et effectivement, on a une crainte majeure, c'est que dans les semaines à venir, et d'ailleurs on commence à le voir, ces fameux remplaçants disparaissent progressivement parce que en fait ils n'ont eu que 4 jours d'information. Je préfère parler d'information plutôt que de formation. Ils découvrent pour un certain nombre d'entre eux un métier qu'ils ne connaissaient pas et effectivement se retrouver dans des classes où il y a plus de 30 enfants dans la classe, c'est compliqué, c'est difficile. Ces gens-là, notre crainte, c'est que ces gens-là démissionnent progressivement parce que effectivement, ils se retrouvent dans une pratique compliquée, dans un accompagnement qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on leur a promis, parce que on leur promet un tutorat local, mais déjà les enseignants sur place se sont débordés. Et en plus un cadre de travail qui est aussi très dégradé suite aux mesures politiques prises ces dernières années. Donc, faut pas attendre de miracle, hein, en fait.
Mmh. Oui, parce que bon, ce n'est pas pour rien qu'un enseignant a une formation. Formation, bien entendu, académique, mais pas seulement. Parce que quand on voit des gens comme ça qui n'ont jamais lessonné, qui n'ont pas, disons, les habilitations littéraires, entre guillemets, requises, se retrouver dans un collège ou un lycée qui est déjà difficile, dont les profs titulaires ont du mal à suivre, bon, qu'est-ce qui va se passer avec ces gens-là? Bon, c'est l'interrogation que des parents, non?
Oui, complètement. De toute façon, nous, à la FCPE, ce que l'on réclame depuis de très nombreuses années, c'est plus de moyens humains et financiers, mais plus de moyens humains dans les établissements scolaires. Donc, mais des moyens humains avec un personnel compétent et formé. Et aujourd'hui, on focalise énormément sur la pénurie d'enseignants, mais en fait, derrière cette pénurie d'enseignants, il y a une vraie misère des autres personnels, les personnels de santé, les personnels sociaux, les personnels éducatifs, les personnels de direction. Donc, c'est un ensemble. Et aujourd'hui, on a encore un traitement, si vous me permettez l'expression, je vais dire, on a un ripollinage de différentes couches sans traiter le mur dans sa globalité.
Mmh. Mais, M. Labastide, récemment, il y a une télé, je ne sais plus quelle chaîne, qui s'est amusée justement à passer des reportages qui étaient réalisés à chaque rentrée. Depuis les années 50, années 60, que tous les ans on pose la même question. Il n'y a pas assez de professeurs. Qu'est-ce qu'on fait pour révaloriser la profession? Qu'est-ce qu'on fait? Etc., etc. Mais ça fait plus de 50 ans, 60 ans qu'on pose le même problème.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que effectivement, on a une dimension politique à prendre en compte. C'est un choix politique de mettre l'accent sur l'éducation de tous nos enfants. Et ce choix politique est malheureusement pas suffisamment assumé. Donc, oui, tous les ans, on avait des pénuries, enfin pas des pénuries, mais en tout cas des manques. Aujourd'hui, on se retrouve face à une pénurie parce que sur les 5 dernières années, on a eu une dégradation énorme des conditions de travail pour les enseignants et pour tous les personnels de la communauté éducative, avec des suppressions de postes, parce que et c'est ça aussi, hein, sous Blanquer, sous le ministère Jean-Michel Blanquer, enfin l'éducation nationale a perdu entre 8 et 9 000 postes. Donc il y a une sorte d'effet de yo-yo systématiquement qui, le jour de la rentrée, ou en tout cas dans les semaines ou les mois qui avancent une rentrée, on a une prise de conscience que là on va avoir un problème. Mais quand allons-nous traiter le problème dans sa globalité? Quand allons-nous redonner du sens à l'éducation nationale?
Mais Monsieur Labastide, en bout de course, ce sont les enfants qui trinquent. C'est leur formation future, etc., etc. Quand on parle de la lecture, en France, on parle beaucoup du déficit au niveau des maths. Bon, on pourrait continuer comme ça. Les maths, apparemment, ça revient en terminale, mais c'est en option, et ça, on n'insiste pas trop. Alors, la situation actuelle, c'est pas seulement le manque de professeurs et de personnel auxiliaire aussi au niveau de l'éducation nationale, mais il y a d'autres questions qui se posent. Bon, l'augmentation du coût de la vie, etc. Déjà, au niveau des cantines, quelque chose qui va se passer, parce qu'entre-temps, les tarifs vont augmenter. Il y a un certain nombre de municipalités, apparemment la région Île-de-France a décidé aussi qu'il n'y aurait pas d'augmentation. Est-ce que vous avez des échos? Qu'est-ce qui se passe juste au niveau national, en résumé?
Alors, au niveau national, le problème de la restauration scolaire est un problème un peu complexe parce que c'est un problème qui mélange différents éléments. Vous savez que bon, déjà, la restauration scolaire est confiée aux propriétaires gestionnaires des équipements scolaires, enfin des établissements scolaires.
Donc, voilà, les mairies, les départements, voilà, les régions,
exactement,
etc.
Exactement. Ensuite, il y a une diversité de gestion de la restauration scolaire. Vous avez 40% de la restauration scolaire aujourd'hui en France qui est gérée par, enfin, qui est est délégué en gestion au secteur privé et 60% qui est géré directement par les collectivités. Ensuite, vous avez une différence de tarification. Vous avez des collectivités qui ont une tarification qui peut s'appuyer sur le coefficient familial ou pas du tout. Mmh. Vous avez ensuite, dans la restauration, des collectivités qui, effectivement, remplissent le cadre réglementaire, d'autres qui ont du mal à le remplir. C'est-à-dire le cadre réglementaire qui est instauré par les dernières lois sur l'alimentation impose qu'il y ait de plus en plus de produits de circuit court et de produits bio. Donc, cette hétérogénéité fait qu'aujourd'hui, on a une vision d'ensemble qui est compliquée à prendre en compte. On a des collectivités qui ont décidé effectivement d'augmenter le coût de la cantine parce que effectivement les coûts des matières premières, les coûts de l'énergie, les coûts des personnels aussi ont augmenté. Vous avez d'autres collectivités qui faisant un choix politique ont décidé de ne pas augmenter et d'aller chercher cet argent complémentaire d'une autre façon. Donc voilà. Et puis ensuite, vous avez aussi d'autres collectivités qui continuent aussi à faire des efforts encore plus de solidarité et qui proposent une restauration scolaire, mais vraiment à un coût minimum. Et nous saluons en tout cas ces collectivités-là, puisque ces dernières collectivités, parce que en fait, la SCPE défend une chose, c'est qu'effectivement se mettre en place une gratuité de la restauration scolaire pour que dans un aspect de solidarité nationale, hein, on n'est pas hors du monde à la FCPE, on sait bien que la gratuité n'existe pas et que cette gratuité se fera par l'impôt, ça permettra à tous les enfants de pouvoir avoir un repas chaud par jour. Et on sait pertinemment que les enfants biologiquement physiologiquement dans leur journée de scolarité qui est déjà très chargée ont besoin de ce temps de restauration, de pause méridienne pour avoir une journée la plus normale possible et leur permettant d'être dans les meilleures conditions pour accueillir les apprentissages qui leur sont dispensés.
Monsieur Labastide, une dernière question. Parlons des fournitures scolaires. Alors, les parents se plaignent, il y a une liste immense de trucs, etc., parce qu'il y a des choses qu'on peut récupérer de l'année précédente. Et spécifiquement, et ça sera ma dernière question, la FCPE fait tout un travail justement pour aider les parents qui n'ont pas les moyens. Alors, c'est pas la rentrée scolaire, l'allocation rentrée scolaire qui peut boucher tous les trous, entre guillemets, ou toutes les dépenses. Le travail que vous avez fait, il y a un petit bilan déjà de votre aide, justement, aux enfants qui sont dans le besoin, ça concerne les fournitures scolaires.
Alors, le bilan est un peu tôt, hein, oui, parce que c'est vrai, la rentrée a eu lieu
jeudi dernier.
Il y a deux jours, et jeudi et vendredi d'ailleurs, hein, parce que certains élèves ne sont rentrés que vendredi, et en fait, l'intégralité des enfants ne vont rentrer dans les établissements scolaires que lundi, hein, donc concrètement.
Demain.
Donc, oui, nous, à la FCPE, dans le cadre des fournitures, on mène deux actions. En parallèle. La première action, c'est agir auprès du ministère pour qu'il ait une intervention beaucoup plus directive auprès des établissements scolaires pour qu'il y ait une liste à minima de fournitures scolaires. Aujourd'hui, ce qui se passe dans les établissements scolaires, c'est que chaque établissement scolaire établit sa propre liste. Et est censé l'établir en plus en collaboration avec l'intégralité des acteurs de la communauté éducative, y compris les parents. Et ça doit être voté en conseil d'école ou en conseil d'administration. Mmh. Donc nous, ce que l'on veut, c'est que vraiment le ministère ait un rôle un peu plus fort sur la définition des fournitures qui sont indispensables par niveau de classe. Ça, c'est le premier point. En parallèle à ça, la FCPE est via ses antennes locales ou ses antennes départementales, malheureusement pas toutes, hein, parce que nous, à la FCPE, on est bénévole, donc on donne du temps, on va dire, et des fois, c'est pas possible de donner encore plus de temps, mais nous avons des antennes locales et des antennes départementales dans différentes régions de France et de Navarre et des Drômes, on va dire, qui ont mis en place des achats groupés qu'on appelle des bourses aux fournitures. Et qui permettent aux parents effectivement de d'acquérir un kit de pour différents niveaux, un kit global pour différents niveaux, et pour les niveaux intermédiaires des kits de réapprovisionnement. Et cette action de bourse aux fournitures, nous la menons depuis déjà une dizaine d'années, hein, à nouveau à la SPE, hein, et c'est vrai que c'est un moyen pour réduire le coût pour les familles. La redistribution se fait via les antennes locales de la FCPE dans les établissements scolaires ou dans les locaux de ces antennes. Donc, et les parents viennent chercher un carton avec l'intégralité des fournitures.
Monsieur Labastide, je suis désolé, mais le temps ça tourne. Hein? Ce que je vous propose, c'est qu'à la fin du premier trimestre, qu'on fasse le bilan tout ça, si vous voulez bien. D'accord.
Très bien.
Merci, Monsieur Labastide. Je rappelle, vous êtes secrétaire général de la Fédération des conseils des parents d'élèves FCPE. On a parlé de l'école, la rentrée, mais il y a une rentrée aussi, et malheureusement, une date aussi qui est pas agréable. Agréable. Il faut l'attendre. C'est le 1er novembre, et là, en principe, ça commence la trêve hivernale des expulsions. En attendant, les expulsions continuent. Justement, c'est un des thèmes qu'on va débattre maintenant avec Monsieur Alain Gaulon. C'est le président de la Fédération de la CNL du Val-de-Marne. Monsieur Gaulon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, un communiqué. La CNL demande une suspension des expulsions dans le Val-de-Marne parce que, bon, depuis, ça a été reporté, c'était au mois de mars. Après, à cause de la COVID, bon, les expulsions ont commencé un peu plus tard. Mais ça revient, le cycle infernal?
Ah, le cycle infernal est repris, bien entendu. Les bailleurs n'ont pas attendu un quelconque décret ou un arrêté pour refaire des expulsions depuis la reprise au 1er avril de cette année. Et c'est d'autant plus évident que de nombreuses expulsions ont lieu cet été, alors que la plupart des gens étaient soit en vacances, soit démobilisés quand on est dans des associations comme la CNL. Et nous sommes d'autant plus, nous, scandalisés que des expulsions ont lieu dans certaines villes qui ont pris des arrêtés anti-expulsion sans relogement. Et on voit bien que dans ces villes-là où l'arrêté a été pris en compte, politiquement, il n'a pas été pris en compte factuellement sur le terrain par les bailleurs.
Oui, parce que, bon, au mieux tout ça, il y a la loi Dalo. Est-ce que tout le monde l'a oublié?
Ah, elle a été complètement oubliée, dévoyée, et il est bien entendu que cette loi, de toute façon, cette loi a été politique lorsqu'elle a été mise en place, et on savait très bien qu'elle n'aurait aucun effet au vu du nombre de logements disponibles pour pouvoir loger l'ensemble des gens qu'on mettait en point imposable. Donc cette loi a été inutile dès le départ, et on le constate encore maintenant. Il est énormément difficile de reloger des personnes qui sont expulsées et qui ont un cursus ou en tout cas un parcours normal, mais encore plus des gens qui sont dans des priorisations comme les DALO, comme les personnes handicapées ou les personnes effectivement à des problèmes médicaux ou physiques.
Alors, parlons de l'inflation, 6,1% officiellement, mais apparemment, on va attendre allègrement, je passe le terme, à la fin de l'année, les 8 ou 9%, mais enfin. Alors, les loyers, le gouvernement a décidé, vont augmenter 3,5% l'an prochain. Mm-hmm. Voilà. Alors, entre-temps, les charges ont des augmentations parfois de plus de 100%. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, non?
Il y a des choses qui tombent par rond, mais je pense il faut jamais croire ce que le gouvernement propose. Quand il a proposé de plafonner effectivement l'augmentation des loyers à 3,5%, mm-hmm. il fallait pas s'attendre à ce qu'il plafonne à un taux inférieur à celui qui allait sortir de l'indice de référence des loyers, qui sert d'indice pour plafonner justement les augmentations de loyers au début de chaque année, puisque ce taux est sorti à 3,6. C'est-à-dire qu'en gros, le gouvernement n'a pris aucun risque en proposant cette initiative, et c'est une fine historique de penser qu'il y aura effectivement des augmentations qui n'auront pas lieu. Après, je rappelle que ce n'est pas une obligation à un bailleur de planter les loyers. On lui propose un plafond de 3,5 qui pourrait très bien ne pas y augmenter l'année prochaine, et en nous, c'est ce que à la CNN, c'est ce que nous allons proposer aux bailleurs. C'est-à-dire qu'au regard de la situation catastrophique économique et sociale que vivent l'ensemble des habitants, ne serait-ce que par le pouvoir d'achat, l'inflation, les crises de l'énergie, etc., on va demander, nous, à l'ensemble des bailleurs, de ne pas répercuter l'augmentation de loyer ni l'augmentation de charges, puisque vous parlez effectivement des charges par rapport à la crise d'énergie, notamment. Mmh. Là aussi, c'est une chemise fleurie, puisque proposer un bouclier tarifaire, je vais vous prendre un exemple théorique, mais qui va illustrer parfaitement le propos. Les bailleurs achètent leur gaz ou leur électricité à 100 euros, par exemple. Le bouclier tarifaire s'appliquera au-dessus de 100 euros. Or, si certains bailleurs ont acheté au préalable leur énergie à 30 ou 40 euros, ils ont tout loisir d'augmenter leur facture, puisqu'ils n'ont pas encore atteint les 100 euros que propose le bouclier tarifaire. Il s'appliquera qu'à partir de ce moment-là. Donc le bouclier tarifaire ne s'applique pas chez de nombreux bailleurs, puisque leur prix d'achat a été moindre. Donc c'est aussi là une fumisterie, ce qui explique que chez de nombreux locataires reçoivent des factures exorbitantes. Alors vous parlez de 200 ou 200%, on a dans certains endroits dans la France, c'est 1200% supplémentaires, c'est catastrophique.
Mais M. Collomb, parce qu'actuellement, il y a pas mal de locataires qui reçoivent, bon, avec le prix du loyer, ce qu'on appelle les provisions des charges. Bon, et donc on anticipe un certain nombre de dépenses parce que bon, on n'a pas compté, on n'a pas vérifié les compteurs, etc., etc. Donc les gens déjà bon, qui ont des petits salaires, on a vu que l'APL a été révalorisée que de 3,5%, etc. Bon, il y a des familles qui pourront pas payer ces provisions.
C'est clair. Il y a des familles qui vont être déjà qui étaient dans une précarisation énergétique, que on appelle ce brevet maintenant la sobriété énergétique, mais ça c'est une précarité. Et ces gens-là vont encore être dans une problématique nettement plus importante et plus grande à l'entrée de l'hiver. Et on va avoir des conséquences sociales et économiques énormes en février-mars et surtout au début de la trêve hivernale, enfin de la fête de la trêve hivernale l'année prochaine. Et ça va être une vraie catastrophe sur laquelle il n'y a aucune solution pérenne qui est proposée par le gouvernement.
Mais Monsieur Gloz, vous avez parlé de sobriété énergétique. Bon, alors pour beaucoup de locataires, surtout des HLM, mais pas seulement des taudis, parce que ça existe encore des milliers de taudis un peu partout en France. Surtout ces gens-là, ils vivent la précarité énergétique, l'humidité, les enfants qui attrapent des maladies, etc., etc., etc. Et on nous dit bon, faites des restrictions, diminuez d'un point le chauffage ici et c'est là, mais il y a des gens qui ont même pas de chauffage.
C'est ça. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 7,2 millions de logements qui sont en passoire énergétique, en précarité énergétique, c'est-à-dire que dans ce qu'on appelle les étiquettes F et G, ce qui est catastrophique. Dans le logement social, il y en a une estimation 416 000 logements qui seraient en précarité énergétique. Il faudrait peut-être faire un plan, une très grande ambition sur la rénovation énergétique, donner le paquet effectivement financièrement à ce sujet-là, qui permettrait à des gens de ne plus devoir prendre des radiateurs électriques ou de pas avoir les moyens de se chauffer. Et on parle de l'hiver, mais on parle de l'été. Hein. Je rappelle qu'on vient de subir quelques périodes caniculaires et que nombreuses personnes n'ont même pas de volets, n'ont même pas les moyens de pouvoir se prémunir de la chaleur. On se retrouve effectivement avec ce manque de confort d'été et qui pose énormément de problèmes et sur lesquels les bailleurs n'ont pas encore pris suffisamment conscience de la réalité de la chose. C'est-à-dire que dans les nouveaux logements, effectivement, la rénovation énergétique, le confort d'été, le confort d'hiver est pris en compte, et encore. Mais dans tout ce qui est ancien logement, qui est quand même la grande majorité des logements en France, là, il y a une très grande problématique sur laquelle l'État ne donne pas encore d'ambition financière, d'ambition sociale et d'ambition politique, puisque dire qu'en 2050, on en aura fini avec les étiquettes FSG est un leurre, en sachant que la rénovation chaque année reste très minoritaire.
Monsieur Gollon, une dernière question. Je parle de la CAF. CAF, parce que depuis la réforme des APL et le changement des règles de calcul des aides au logement, eh bien, la CAF a des difficultés à mettre ça en règle et de payer justement les fameuses APL. Les délais de traitement se sont allongés. D'une part, donc, les nouvelles règles de calcul, des bugs informatiques et manque d'effectifs, de personnel. C'est quelque chose que vous suivez de près, que vous êtes confronté ça au niveau du Val-de-Marne?
On est bien confronté à ça. On voit les conséquences en aval. C'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent nous voir en nous disant « je ne comprends pas, je ne touche plus ». En tout cas, le bailleur ne touche plus l'APL alors que j'y ai le droit. c'est, etc. Il y a effectivement un véritable problématique avec la CAF et les manques d'effectifs, mais ça, ça rejoint l'ensemble des services publics.
Le privé, quoi, tout à fait.
Voilà, dédiés aux habitants, parce qu'à un moment donné, il faut revenir à un service public national, il faut revenir à un ensemble de services publics, ça vaut pour la poste, ça vaut pour le logement, ça vaut pour la CAF, ça vaut pour l'ensemble des services qui sont dévolus, qui devraient être dévolus à l'ensemble de la population comme un bien commun et non pas comme une marchandise qu'il faut rentabiliser.
Oui, effectivement. Bon, quand on voit que les centres de sécu, CAF, même des PMI ferment dans les quartiers. Alors, une toute dernière question, vous me répondez par oui ou par non. Monsieur Golon, vous allez participer au Conseil national de refondation?
Non, c'est une fumisterie encore une fois et nous ne participerons pas.
D'accord. Monsieur Alain Golon, merci. Vous êtes président de la Fédération du Val-de-Marne, de la Confédération nationale du logement. Merci, on va être attentif à ce qui se passe les mois qui viennent et arriver jusqu'à ce fameux 1er novembre avec la trêve hivernale. On verra ce qui se passe. Merci, monsieur Golon.
Au revoir.
Et nous voltamos dentro de uns instantes. Estamos na reta final da passagem de nível neste dia 4 de setembro. As notícias, normalmente, as boas demoram tempo a chegar, as más, essas chegam depressa. Foi o que nos aconteceu no passado dia 13 de julho, António Porto Onete faleceu. E de maneira que, para nós aqui na imigração, e eu pessoalmente também me implico pessoalmente, são dezenas de anos de luta associativa e não só, que com o falecimento de António Neto, pois bem, uma pessoa volta sempre atrás, passa o filme ao contrário, mas enfim. António Neto teve a particularidade, entre outras, né, evidente, de ter desertado 3 vezes. E não é por acaso que ele se encontrou na origem com outros, e esperamos ter João Machado dentro de alguns instantes também, na origem de uma associação de imigrantes ex-militares, a maior parte deles que fizeram a guerra colonial, para que esses ex-militares tivessem direito, como quem diz, que o tempo de serviço militar contasse para efeitos de reforma. Já lá iremos um pouco mais tarde. José Machado, boa tarde.
Olá, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio também.
José Machado, obrigado por estar connosco aqui. Ora, quando eu falo José Machado, antigo presidente do Conselho Permanente do CCP, igualmente presidente da Federação das Associações Portuguesas de França, podemos continuar assim, a sindicalista, nomeadamente do Cabo de Lyon, bom, podemos fazer uma lista enorme, não estamos aqui para isso. Concretamente, António Neto.
António Neto, deixa-me a recordação de um homem de fortes convicções, que eu conheci muito de perto, aliás, cheguei mesmo a trabalhar com ele profissionalmente, porque ele tinha uma pequena empresa de construção civil, e por vezes encontrávamos a trabalhar juntos. E conheci muito bem, porque conheci-o em Portugal, conheci-o depois em França, conheci-o na Federação das Associações Portuguesas, de que ele foi dirigente também, e depois conheci-o também em todos os combates em que era de uma exigência terrível o António Porto Neto. Por vezes até era difícil de aguentar por os outros companheiros, porque era muito exigente, tinha convicções muito fortes, e aquilo que fazia, queria fazer sempre bem. Não admitia, poucas vezes admitia erros ou desvios naquilo que a gente planeava ou decidia. Era um homem extraordinário, e sinto muito, 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 tenho muita pena da partida dele.
Ora, se vocês permitem, João Machado já está em linha. João Machado, boa tarde.
Boa tarde, boa tarde.
Obrigado por estar connosco aqui também. Eu vou-me permitir passar o som, faz 1:40. Foi a última entrevista que fiz a António Neto, foi no dia 8 de maio de 2022. Vocês vão compreender porquê. Não é numa anedota, é realidade. Ouçamos. António Neto, talvez mereça uma explicação, de maneira que ir para Lisboa, Bom, se eu até pode ir passear a Lisboa, o problema não está aí. Mas há o transporte, há isto e aquilo daquilo, por causa de um passaporte, o que é que se passou exatamente consigo?
Bem, ter que vir a Portugal para fazer um passaporte é um exemplo notório do cumprimento das obrigações do Estado português com os cidadãos residentes no estrangeiro. Em Paris é impossível fazer um passaporte. As marcações só podem ser feitas a partir do mês de julho. Isto não me foi dito ao telefone, sobre isso por outras fontes. E quando nós vemos o secretário de Estado, o Paulo Cafofo, que repete na entrevista à Aula dos Portugueses na RTP1, e aí contigo, Artur Silva, na passagem de nível no 24 de abril, que nós imigrantes somos embaixadores de Portugal no mundo, não deve estar a brincar. Porque os imigrantes só vão ao consulado para fazer documentos que são obrigados para a liberdade de circulação, que está bem definida. Eu repito outra vez, está bem definida na nossa Constituição, que são atos consulares e são pagos. Atualmente a estrutura consular não responde a ninguém.
António Neto, uma questão ainda. Em Portugal está a avançar a feitura desse passaporte ou não já agora?
Sim, não há problema nenhum. Aqui em Portugal as pessoas vão a um registro qualquer, são 6 dias, é 65 euros.
Mais barato do que aqui. Mais barato do que aqui.
É evidente que é mais barato do que aí. As pessoas aqui eles não vão dizer que houve Covid e tiveram que fechar e que houve problemas de Covid, com o Covid tanto houve em França como em Portugal. E em todo o caso, o problema, tudo bem sabes que nós na primeira geração nem chamávamos o consulado, chamávamos o desconsulado.
Desconsulado, com efeito, João Machado. Há bocado, instantes, com o João Machado, foquei, bom, António Neto, porque o João Machado também esteve na origem, não posso esquecer, o António Cerqueira, na Associação dos Imigrantes Ex-Militares que fizeram a Guerra Colonial e cujo tempo da tropa não contava na altura para efeitos de reforma. Esse combate em comum, eu penso que vocês fizeram reuniões e reuniões tiveram combates arranhidos mesmo com o governo, não foi?
Muitos combates, essa luta... Primeiro... bom dia a todo o auditório da Rádio Alfa, a todos aqueles que nos ouvem, e bom dia aí para os estudos. Sobre o António Oneto, o mais conhecido pelo Porto, foi um amigo meu de 40 e tal anos. Uma amizade muito forte e cimentada por as atividades que tínhamos os dois, que eram quase iguais, tanto no movimento associativo português em França, nas associações portuguesas, como nos contextos políticos, nos vários contextos políticos que atravessamos. E depois, portanto, essa associação que criámos em 2001, tenho a impressão que foi em 2001, foi uma associação que, na origem a associação queria-se ocupar unicamente das questões de reforma dos imigrantes portugueses. Porque quando chegámos ao ano 2000, e tendo em conta a imigração que já vinha dos anos 70, chegavam todos à reforma mais ou menos por essas alturas. O António Neto e eu, o António Cerqueira e mais alguns, criámos uma associação. Porquê? Porquê que criámos essa associação? Porque numa conferência de imprensa na Sala João Vilar em Argentói, onde estavam centenas de pessoas, centenas de imigrantes portugueses que queriam ouvir o problema da reforma, nós convidámos uma técnica do Centro Nacional de Pensões de Lisboa a vir explicar isso aos portugueses. E essa técnica disse, diante de centenas de pessoas, que o tempo da tropa não contava para a reforma, a todos os imigrantes, fossem militares ou não, que não estivessem inscritos na Segurança Social antes da tropa. Ora, que era o caso de quase a totalidade da sala. Porque a maior parte daqueles portugueses antigos combatentes ou ex-militares, depois da tropa, depois da tropa e depois da guerra, emigraram logo para a França. Não, nunca tinham trabalhado, nunca tinham descontado em Portugal. E, portanto, estes três e tal anos, eram banidos da contagem da reforma. O que para eles era um drama, porque tinham 60 anos, 59, 70 anos, podiam pedir a reforma, e sem esses 3 anos, na Contagem, criavam-se as penalidades em França que lhes reduziam a
pensão. João Machado, peço desculpa, vamos ter tempo mais tarde. João Machado,
só para mostrar um pouco era a associação.
Pois, agora, mas precisamente, João Machado, só um minutinho, por favor, porque eu gostaria que ouvíssemos um extrato de uma entrevista que realizei no dia 8 de janeiro de 2003. Isto a propósito de que o vosso movimento, a associação, conseguiu uma coisa que os imigrantes nunca tinham conseguido. Ouçamos Porto Neto.
Porquê que ele nos recebeu a nós e ao Luxemburgo? Porque nunca em 40 anos de imigração o governo português recebeu os imigrantes em luta e foi a primeira vez que o recebeu. E como recebeu? Porque nós, a luta que nós temos feito até hoje, que é uma luta exemplar e que nós temos que agradecer a todos os nossos associados e aos portugueses, obrigou o governo português a receber-nos. Mas o problema é que ele recebeu-nos para fazer uma promessa, mas nós promessas não nos chegam.
João Machado, eu penso que aquilo que afirmou, e foi importante, porque vocês depois tiveram reuniões no seguimento desta entrevista de dia 1 de janeiro, mas é para sentir, ver a importância do movimento vocês conseguiram e a mobilização dos ex-militares, não foi, João?
Foi, exatamente. Tivemos uma grande adesão, sobretudo dos portugueses que tinham feito a guerra, dos ex-combatentes. Sobretudo deles. Tivemos uma grande adesão porque esses portugueses sentiam-se feridos eles mesmos. Eles que foram obrigados a fazer a guerra, o serviço militar e a ir para a guerra, Portugal não lhes reconhecia esse tempo para contarem à reforma. Para eles era uma injustiça enorme. E essa injustiça fez que, claro, criámos um movimento que se alastrou pela França toda, tivemos contactos com o Luxemburgo também, e depois tivemos imensas reuniões com o governo, mas todos os governos nos tentavam levar um pouco de paleio e fazer arrastar o problema. O Honeto, o Porto, conheceu muito bem isso, ele participou em dezenas e dezenas de reuniões com deputados, com o embaixador António Monteiro aqui em Paris, com os representantes do Parlamento em Portugal, com as caixas, o Centro Nacional de Pensões, até conseguirmos que a lei fosse mais ou menos votada a favor dos ex-combatentes, foi preciso esperar 9 anos.
9 anos. João Machado, o que eu prometo é que nós possamos voltar a isto com mais profundidade, tanto mais... Bom, para já, vou-me despedir. José Machado, obrigado, e teremos a ocasião de falar muito em breve, está bem?
Okay.
Obrigado. Não, não, João Machado, só um minutinho. É que, entretanto, vamos ter alguém da Associação Memória Viva que estão a preparar também uma homenagem ao Porto Neto. De maneira que, João Machado, o António Cerqueira escreveu um livro, faz um bocadinho o resumo do vosso combate. Bom, dizemos adeus agora ao José Machado e voltamos
não
a falar.
Não esqueçam o trabalho dele na Escola por Timor, a campanha por Timor.
Obrigado, José Machado. João Machado, de maneira que há uma coisa escrita desse combate, não há?
Há um livro que eu escrevi com o António Cerqueira, que resume os 10 anos do que foi a associação. Esse livro está disponível em todas as bibliotecas em Portugal. Nós enviamos para as bibliotecas todas. Eu tive a possibilidade, por exemplo, em Viana do Castelo, vir verificar se era verdade. E o livro estava lá na biblioteca municipal. Portanto, esse livro está disponível e esse livro resume o problema e todas as atividades que tivemos. Mas eu só queria acabar em relação ao meu amigo íntimo, que foi o Porto, o António. Ele, por vezes, como o Zé Machado descreveu, ele era muito exigente e por vezes era visto como um homem assim duro. Mas eu lembro-me sempre de duas imagens que me ficaram marcadas e que eu recordo sempre. Ele tinha um coração a transbordar de amizade e de emoções. Ele, quando havia um amigo, quando um casal tinha um bebê, um casal amigo tinha um bebê, ele era o primeiro a pegar-nos no bebê e a passear com ele. Ele gostava tanto das crianças quando nasciam E não, eu não conseguia compreender onde é que ele ia buscar essa emotividade para isso. Isso é, é o lado sentimental dele, que ele por vezes escondia. E depois há uma, outro lado, que aí é verdade que ele era um homem que quando achava que a sua opinião era justa, ele não mexia um ponto. E foi quando nasceu o filho dele, o Jerónimo. Ele vivia em Villiers-le-Bel, na periferia norte, e foi à Câmara para registar o filho e perguntar-lhe o nome do filho. E ele disse Jerónimo. E o empregado da Câmara não o queria registar, dizendo: aqui Jerónimo é Jerome. Você não pode impor o filho do seu, o nome do seu filho dessa maneira, tem que ser Jerome. E ele tanto batalhou lá com a administração que saiu de lá com o registro, com Jerónimo e com um acento. Como não havia o acento português lá no O, saiu com um acento
ao contrário.
A direita.
João Machado, vamos agora até a memória viva, que o João Machado conhece igualmente. Cândida Rodrigues, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Obrigado por estar connosco. Evidente, bom, as 14 horas estão a chegar, mas vamos voltar a relembrar, como era, nunca vamos esquecer o António Neto, tanto mais, penso eu que a memória viva está a preparar uma homenagem. Tenho à minha frente uma fotografia, maldita seja a guerra 1918-2018, uma coroa de flores, onde está escrito igualmente www.memoria-viva.fr. Isto foi, acho eu, em 2018, precisamente em Lalice.
Sim, exatamente. Foi um evento que nós organizamos com a Memória Viva em 2018, no quadro do centenário da guerra, da Primeira Guerra Mundial, e acontece que nessa altura a Memória Viva preparava, já estávamos em um projeto de denunciar o horror da guerra colonial, porque é preciso lembrar precisamente que o António Neto, que eu conheci relativamente recentemente, mas já conheci o trabalho dele através dos filmes e das entrevistas que ele deu com o
José Vieira.
Uhum. Claro que quando ele apareceu na Associação Memória Viva, foi um grande prazer para mim de descobrir um homem de uma, como é que ia dizer, de uma honestidade, de uma pureza de ideia que deixa a pensar, porque ele, com a idade que ele tinha, foi sempre fiel às ideias que ele sempre tive, às posições que ele tinha, que era sobretudo, ao meu ver, não em nome da Memória Viva, mas pelo sentimento que eu tive de ter conhecido, era que é profundamente um homem anticolonialista, antimilitarista, anticapitalista, e que todo o empenhamento social, político e associativo que ele teve estava ligado a estas condições políticas muito fortes, e que levou a pedir contas ao Estado português, em particular em relação aos desertores e aos soldados que combateram durante a guerra colonial. No entanto, quando a Memória Viva pretendeu organizar uma exposição sobre a guerra colonial, quando nós procurámos assim à esquerda e à direita, e descobrimos que no norte da França, onde o CEP, o exército português de 1917, veio até lá, na Batalha de Alice, onde eles morreram por milhares, nós decidimos organizar um evento à volta disso para denunciar a guerra.
Essa maldita guerra, pois.
E dar a ver a participação dos portugueses nessa altura. Era a primeira vez, ao meu ver, eu não sei se estou correta, não sou historiana, mas não sou historiadora, mas acho que a iniciativa da Memória Viva foi a primeira iniciativa organizada por uma associação que, de uma maneira direta, denunciava a guerra. Então, essa coroa, maldita seja a guerra,
foi,
vem de um livro, aliás, que vem de um livro português, escrito nessa altura, uma série de novelas, que eu até me inspirei desse livro para
para essa coroa.
Cândida Rodrigues, peço desculpa, estamos a chegar às 14 horas. De maneira que, uma vez que esteja anunciada a termos uma data para homenagem ao António Neto, voltaremos ao assunto com mais tempo. Peço imensa desculpa, mas continuamos a conversa mais tarde, Cândida. Entretanto, João Machado, obrigado por estar connosco. Sei que o tempo foi curto, porque vamos passar uma hora com música, com isso tudo, e o José Machado falou na luta, igualmente, pelos direitos do povo timarense. Voltaremos ao assunto, João. Está bem?
Está bem. Um abraço.
Um grande abraço. Obrigado. É verdade que estamos a chegar ao final. Obrigado, Manuel Alexandre, por me acompanhar novamente na nova temporada da Passagem em Nível. Bem-haja, a emissão tem redifusão na noite da quarta para quinta-feira, a partir de 00h. E para não ficar no mesmo tom, Menina dos Olhos Tristes, com José Vieira. José Afonso.
Olhos tristes, o que tanto a faz chorar? O soldadinho não volta do outro lado do mar. Senhora de olhos cansados, porque a fatiga o tear? O soldadinho não volta do outro lado do mar. Pensativo, olha o cachimbo a apagar. O soldadinho não volta do outro lado do mar. Anda bem triste um amigo, uma carta o fez chorar.